Bonsoir. Pollution des rivières Chicapa et Kasaï. Le rapport final d'évaluation du gouvernement central fait état de plus de 4000 victimes de la pollution des eaux recensées dans 13 zones de santé sur les 18 que compte la province du Kasaï. La plupart des victimes souffrent de diarrhées et d'autres infections, selon toujours ce rapport élaboré à l'issue du séjour dans la région de la ministre de l'Environnement, signalant que c'est au début du mois d'août que l'alerte de cette pollution a été donnée après un changement de couleur des eaux de plusieurs cours d'eau dans Chicapa, Quilou et Kasaï. Les premières informations attribuent cette pollution à une usine d'extraction des minerais située sur le territoire angolais. Quelle lecture faire de la gestion de cette pollution par le gouvernement? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 1er septembre 2021. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Louis Lungu Malouchi, directeur chef des services des ressources en eau au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Monsieur Lungu Malouchi, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir madame. Et je salue tous les auditeurs qui nous suivent.
Julie Ochano, coordonnatrice de l'ONG Binadamu en Action, une ONG humanitaire et de développement basée à Chicapa dans la province du Kasaï. Julie Ochano, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et le professeur Asser Nzovu Louvoudji, professeur à l'université d'Ekikwit, il est expert en droit de l'eau. Professeur Asser Nzovu, bonsoir.
Bonsoir madame, salutations aux invités et aux autres intervenants.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Kedi Sifer. Nous condamnons la légèreté avec laquelle le gouvernement gère cette affaire. Depuis le premier jour de l'alerte, on n'a pas vu une mobilisation de la part des autorités. Elles ont attendu jusqu'à ce que le pire arrive. Jusque-là, personne ne connaît la vraie composition de cette matière polluante qui a été déversée dans la rivière. Rémi Lokonga, depuis Kisangani dans la province de la Tchoukro, la gestion de cette pollution par le gouvernement central est à mon avis peu efficace jusqu'à présent, car les victimes de cette situation ne sont pas encore prises en charge correctement et ce bilan reste encore jusque-là provisoire. À Kananga dans la province du Kasaï central, vous nous suivez sous la 93.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Chanel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Plus de 400 personnes présentent des cas de diarrhée à la suite de la pollution des rivières Chicapa et Kasaï, a révélé le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Eve Bazaïba. Des échantillons ont été prélevés au moins deux fois et après analyse, selon elle, les premiers éléments montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux et qui en absorbent l'oxygène. Cette situation justifie la mort des êtres vivants aquatiques, dont les poissons et les hippopotame à Ilebo. La ministre de l'Environnement livre ses informations après la séance de travail avec le premier ministre Sama Alou Kondé. Pour le gouvernement, l'heure est désormais à la recherche de solutions pour limiter les dégâts et porter assistance à tous les riverains victimes de cette pollution. On écoute Eve Bazaïba dans cet extrait.
Il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriés connaissant des cas de diarrhée. Le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires sur terrain. Nous savons que ça sera très très difficile. Donner l'alternative à l'eau n'est pas la porte à côté parce qu'il y a toute la population riveraine. Nous avons vu des éléments satellitaires pour voir tous les corridors de la rivière Chicapa, rivière Kasaï, ressortis vers, on n'est plus dans les Kasaï, on va jusque dans les Kwilu et dans les Maïndombe. Et demain après demain, on peut retrouver ces substances ici sur les fleuves Congo. Et c'est un danger permanent, mais le gouvernement va faire un effort pour donner l'alternative à certaines questions. Il y a l'eau, il y a l'aide humanitaire nécessaire pour que la population puisse s'approvisionner autrement et essayer de limiter les dégâts. Parce qu'en termes de dégâts, il y en a déjà. Voilà pourquoi, pour le moment, nous sommes dans la démarche de demander à ce que cela soit stoppé immédiatement parce qu'il s'agit de la vie humaine. Il y a une forte équipe de haut niveau du gouvernement qui va arriver sur terrain en mission de solidarité, en mission humanitaire. Et dans dans tous ces contrées, nous avons les Kassai, les Kwilu et les Maïndombe, et il y a encore une autre démarche vers le pays frère de l'Angola.
Louis Longo Malucci, directeur chef des services des ressources au nom du ministère de l'Environnement et Développement Durable, je l'ai dit, plus de 4000 victimes de la pollution des eaux recensées dans 13 zones de santé sur les 18 que compte la province du Kasaï. Quelle est la situation aujourd'hui dans ces contrées touchées par la pollution? Est-ce que les données ont changé ou bien elles restent les mêmes?
Merci bien madame, je tiens d'abord à saluer tous ceux qui nous suivent en direct sur votre radio. Je pense que vous avez suivi le point de presse de l'autorité du ministère, son excellence madame le VPM en charge de l'environnement et développement durable. Le gouvernement est en train de s'atteler, les experts de haut niveau sont sur le terrain en train de faire le travail de fouille. Évidemment la pollution est arrivée brusquement, elle ne va pas disparaître parce que l'eau est devenue claire. Il y a toujours des résidus qui vont rester, qui peuvent poser encore des problèmes. Sur les images que vous avez vues ou ce qu'on a vu sur le terrain, il y a plus de poissons à écailles qui sont morts, qui ont été retrouvés à la surface. Mais il y a d'autres poissons qui habitent plus au fond. C'est ces dangers-là qu'il faut craindre. Ces dangers-là qu'il faut craindre parce que ces poissons peuvent accumuler des toxines et qui pourront contaminer toute la chaîne alimentaire. Donc à ce moment-ci, dire que la situation est meilleure, je ne pense pas. Nous devons rester sur nos gardes fous, continuer à surveiller la situation jusqu'à ce que les résultats qui vont sortir du travail des experts nous montrent que l'eau est redevenue normale et les risques dans les écosystèmes se trouvent à telle seuil et à ce moment-là, on peut donner des conseils corrects à la population.
Louis Longo, est-ce qu'on connaît finalement l'origine de la pollution du bassin de la rivière Kasaï?
L'origine de la pollution est connue depuis la semaine même où il y a eu la pollution. L'origine est connue. Le gouvernement, comme les rapports de son excellence a été clair, le gouvernement est en train de travailler sur terrain pour venir en aide à nos compatriotes qui sont dans les détresses. Et il y a un autre mouvement qui attend les résultats des experts et commencer la démarche vers la source de la pollution.
Louis Longo, est-ce que vous avez une idée des polluants qui sont présents dans ces rivières?
Les polluants, selon les premiers analyses qui ont été réalisées, c'est du fer et du nickel. Le fer et le nickel, ce sont des métaux qui interagissent dans les milieux aquatiques et qui créent des complications, des crises d'oxygène dans l'eau et certaines intoxications dues à leur structure qui n'est pas appropriée à être dans le corps d'un être vivant comme les poissons, comme les reptiles.
Alors vous avez parlé d'un groupe d'experts de haut niveau qui sont sur terrain pour faire les évaluations, mais en attendant ces évaluations, Louis Longo, comment éviter que cette pollution se répande davantage? Comment la contenir?
La contenir actuellement, je dois être honnête, le pays n'a pas de moyens pour contenir ça. Si on avait suffisamment de dragues à la RVF, à la CVM, on pouvait faire appel à ces dragues qui allaient monter sur les lieux, brasser l'eau pour casser plusieurs liaisons qui seraient en cours de constitution. Mais nous n'avons pas suffisamment de ces équipements. Tout ce qu'on peut faire, c'est conseiller les riverains à ne pas utiliser cette eau, à suivre les consignes qui ont été données par l'administration pour éviter les désastres.
Conseiller les riverains de ne pas utiliser cette eau. C'est que ces contrées sont butées à un problème d'eau potable, l'eau ne coule presque pas. Comment ces populations vont s'en sortir? Comment elles vont faire?
La population riveraine de la rivière Tchikapa, de la rivière Kasaï et de la partie sud de la rivière Kasaï vers Ilebo et Tukosor, je pense que c'est une population qui est suffisamment éduquée. Ce sont des responsables, des pères de famille qui doivent encadrer leurs enfants. On ne va pas laisser les enfants aller boire de l'eau sale. Je pense qu'il y a des moments où, ici à Kinshasa, même où nous sommes, il n'y a pas d'eau au robinet, mais aucun parent ne peut laisser son enfant aller boire l'eau de la pluie. Même s'il faut la prendre, il faut la traiter. Dans cette zone, il y a beaucoup d'autres ressources, beaucoup d'autres rivières qui peuvent être utilisées en attendant que le gouvernement amène les moyens. Le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Je pense que la population doit patienter. On pensait que tout le monde allait disparaître avec cette catastrophe. Depuis que cela est arrivé, nous sommes bien sûr en train de franchir les premiers mois, mais tout Tchikapa, tous les habitants riverains n'ont pas disparu. Donc il faut les encourager à résister encore un peu, à utiliser les moyens alternatifs pour avoir de l'eau en attendant que l'administration résoudre définitivement leur problème.
On a quand même plus de 4000 victimes de la pollution, M. Louis Longo, et peut-être plus.
Peut-être plus parce que la pollution est toujours là. Apparemment, l'eau est devenue claire, la pollution est toujours là. On risque d'avoir au-delà de 4000 si les gens ne respectent pas les directives qui sont édictées. Nous sommes tous conscients, vous et moi et tous les autres Congolais, de la situation que traverse toute la population riveraine de ces deux cours d'eau. Il ne faut pas parler seulement de Tchikapa. Tchikapa, c'est parce que c'est une grande agglomération. Mais pensez aussi à ces vieillards qui sont dans un village le long de la rivière Tchikapa, qui n'ont pas autre issue. Il faut des choses que cette situation-là passe. Et donner des résultats qui nous permettent, nous, administration, de donner des informations concrètes à la population.
Alors justement, le gouvernement fait quoi pour ces vieillards qui habitent le long de ces rivières, qui n'ont pas la force de faire des longues distances pour aller chercher de l'eau? Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour ces genres de personnes?
Le gouvernement est en train de travailler. D'abord, c'est identifier toutes ces personnes et avoir la possibilité. Le ministre en charge du développement rural est sur place. Il est en train d'étudier sur place. Si ce n'est pas le ministre, c'est sa délégation, mais il y a une équipe du ministère du Développement Rural qui est à Tchikapa et aux alentours pour voir deux choses. La première, c'est comment aménager rapidement les sources traditionnelles, les cours d'eau qui existent, pour que ça soit des sources qui donnent la vie et non pas qui donnent des maladies hydriques. La deuxième possibilité, c'est d'étudier la cartographie de la population pour voir à quel niveau faire le forage et faire l'adduction d'eau en réseau. Donc le gouvernement est en train de travailler pour elle.
Il y a cet auditeur qui dit qui condamne, selon lui, la légèreté avec laquelle le gouvernement gère cette affaire. Depuis le premier jour de l'alerte, on n'a pas vu de mobilisation de la part des autorités. Elles ont attendu jusqu'à ce que le pire arrive.
Alors, il a raison de faire ce constat, mais parfois il n'a pas totalement raison. Imaginez-vous que cet événement a surgi. Une nuit, le matin, vous vous réveillez, vous avez cette catastrophe. Ok? À ce moment-là, le gouvernement, c'est pas seulement le ministère de l'Environnement. C'est un domaine où tout le monde se retrouve. Tous les ministères devraient se réunir, faire des analyses, faire des observations, réunir les moyens et faire les déplacements sur place. Donc, comme gouvernement, c'était l'action du gouvernement à faire. C'est une action normale. Il faut pas agir comme si c'est une petite situation. La situation était très, elle reste encore catastrophique. Le gouvernement a fait ce qu'elle pouvait faire et les actions sont en continu sur terrain pour résoudre les problèmes.
Merci Louis Longou. Julie Ochanu, coordonnatrice de l'ONG Binadamu en action, une ONG humanitaire et de développement basée à Tchikapa dans la province du Kasaï. Que pensez-vous de la gestion de cette pollution par le gouvernement?
Merci madame, j'en profite pour dire bonjour à toute la population du Kasaï. Qu'est-ce qu'on pense de la gestion de cette catastrophe par le gouvernement? Eh bien, nous avons vu et accueilli le membre du gouvernement presque trois semaines après que la pollution ait été observée par l'autorité locale. La première délégation de madame Eve Bazaïb étant ici à Tchikapa la semaine passée, c'était une mission politique et scientifique. Et jusqu'alors, nous attendons les retombées, le rapport de cette mission scientifique parce que, normalement, les échantillons étaient déjà envoyés à Kinshasa, et jusqu'à présent, nous n'avons aucun élément, établissement, aucun rapport écrit et partagé, établissement plutôt la qualité des substances toxiques qui ont été injectées dans les rivières dans la rivière Tchikapa. Donc, à ce jour, une mission humanitaire serait attendue. La grande délégation du gouvernement national est ici à Tchikapa depuis hier. Nous observons, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je n'ai pas encore vu une aide humanitaire dispatchée à travers la population vulnérable du fait de la pollution des rivières Kasaï et Tchikapa. Donc, à ce stade, ce que nous pouvons dire par rapport à toute cette population qui souffre, parce que les femmes, par exemple, qui étaient habituées à prendre les poissons gratuitement chez les pêcheurs et aller les revendre au niveau des marchés et rembourser l'argent chez les pêcheurs, aujourd'hui, elles ne font rien. Elles n'ont pas de capital. Leur capital, c'était la rivière. Tout a été détruit, l'ossature marine. Quand un hippopotame meurt, quand un crocodile meurt, et a fortiori, l'être humain qui est plus vulnérable que ces deux animaux, que ce mammifère marin. Donc nous observons de la part des femmes des conséquences trop nuisibles, même à long terme, de l'usure vaginale, qui peut donner des cancers du col de l'utérus à long terme. Nous sommes en train d'observer des réactions cutanées au niveau de la peau des femmes et des enfants. Mais vous dites à la population de ne pas utiliser de ces. Mais quelle alternative vous avez donné à cette population pour qu'elle puisse évidemment avoir accès à l'eau potable? Nous ne voyons rien.
Julie Ochanov qui est sur place. Comment la population s'approvisionne-t-elle en eau depuis la pollution de la rivière Kassai?
Qu'on ne vous trompe pas, la population utilise l'eau de la rivière Kassai et Chikapa. Nous avons même des images. Mais elle va se ressourcer où, madame? Elle va se ressourcer où? Le tuyau de la régie des eaux qui desservait l'eau dans la commune de Kélé a été détruit lors de la construction du pont. Et jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore rétabli. La population utilise l'eau de la rivière Kassai et Chikapa. Qu'on ne vous trompe pas. Et l'eau de la régie des eaux, ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas dans les fins fonds de toutes les communes que l'eau de la régie des eaux arrive. Ça, c'est faux. C'est pourquoi nous disons il y a beaucoup de personnes qui ont autant d'argent de salaire qui pouvaient construire de 100 forages ici ou aménager plus de 200 sources d'eau qui se trouvent disséminées tout le long de rivières. Mais nous n'avons rien vu à ces jours. Et vous allez dire que le gouvernement a pris en charge la question en refusant à la population d'accéder à l'eau. Mais c'est faux, la population accède à cette eau. C'est pourquoi vous voyez la flambée élevée des maladies hydriques telles que la diarrhée, telles que les réactions cutanées des lésions vaginales chez les femmes.
Vous êtes une ONG basée à Chikapa, une ONG humanitaire et de développement. On a suivi Louis Lungu interpeller aussi la population, sensibiliser la population de ne pas utiliser cette eau parce qu'elle est polluée. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites avec votre ONG? C'est vrai, vous n'êtes pas le gouvernement, mais comment vous aidez cette population?
Nous aidons notre population à travers le plaidoyer. C'est le plaidoyer que nous sommes en train de faire depuis longtemps. Nous avons écrit notre plaidoyer que nous avons la province du Kassai, des agences onusiennes qui sont là et qui peuvent apporter de l'aide. Mais à ce jour, ils attendent le rapport du gouvernement. Ils attendent que le gouvernement puisse leur dire qu'évidemment, eu égard aux enquêtes scientifiques qui ont été faites, les échantillons d'eau qui ont été envoyés au niveau du laboratoire. Nous sommes en attente des recommandations par rapport aux enquêtes menées, ce qui va amener leur terre agence à la proactivité. Les autres sont là pour accompagner le gouvernement. Ils ne peuvent pas prendre la place de l'État. Et si le gouvernement ne dit rien, si le gouvernement fait comme si tout allait bien, non, de la même manière qu'ils sont en train d'aider l'Est, ils doivent aussi savoir que chaque province a ses spécificités. Lorsque le président de la République avait fait l'appel à la solidarité, je pense qu'il s'était question aussi pour d'autres provinces qui ont aussi de moyens, qui ont aussi mobilisé des moyens pour l'Est, à pouvoir aussi mobiliser les moyens pour la population du Kassai, surtout pour les femmes et les enfants.
Julie Ochano, puisqu'il y a urgence, qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat pour aider ces populations?
D'abord, le gouvernement doit déclarer l'urgence. Il doit mettre sur la table le rapport scientifique pour dire évidemment quelles sont les substances toxiques qui ont été injectées dans l'eau, l'ampleur de cette pollution sur la sécurité alimentaire, l'ampleur de cette pollution sur la santé des personnes, des femmes et des enfants, et ainsi de suite, l'ampleur de cette pollution sur le corps humain, sur l'eau que la population est en train de prendre. Et je pense que le code environnemental établit aussi le principe du pollueur-payeur, puisqu'on sait que ce sont des complexes miniers de Katoka, de Kamadiko au niveau de l'Angola qui ont pollué l'eau de la RDC. Mais je pense qu'il faut une place et un autre stade. Non, moi, le Binadam, nous sommes membres du réseau des femmes pour le développement du Kassai. Nous avons déjà donné mandat à ACJICO, qui est l'association des femmes juristes du Congo, à pouvoir évidemment pour faire établir de poursuites juridiques contre ces sociétés minières. Nous avons assisté dans un passé proche l'Angola qui a fait un refoulement musclé de nos compatriotes. Et en plus de cela, ils pensent qu'ils doivent injecter des substances toxiques et nous n'avons pas un gouvernement qui peut nous défendre. Je pense que cette question doit être prise au sérieux.
Julie Ochano, merci. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir le professeur Azer Nzovu Lubuji, professeur à l'université de Kikwit et expert en droit de l'eau. Professeur, quelle lecture vous faites de la gestion de cette pollution par le gouvernement?
Merci beaucoup, madame, pour la parole que vous me donnez. Je salue le directeur chef de service Louis Lungu, avec qui d'ailleurs je m'étais entretenu lorsque je faisais mes recherches doctorales sur ces sujets. Alors, j'ai dit que le gouvernement a lamentablement échoué sur la gestion de cette question. Et donc, c'est vraiment regrettable. Et en tout cas, évidemment, le directeur, je ne sais pas, il fait l'avocat de ses services et du gouvernement, mais je vous dis, madame, que cette question a été mal gérée. Déjà, si vous voulez avoir une idée, en 2018, j'ai écrit un livre qui avait pour thème « Prévention de la pollution de l'eau comme contribution à la préservation de la biodiversité ». J'ai écrit un autre livre sur les techniques juridiques de la prévention de la pollution de l'eau, toujours en 2018. Et en 2020, j'ai soutenu ma thèse sur la prévention de la pollution de l'eau du bassin du Congo. Et là, je faisais l'évaluation des mécanismes de protection des ressources en eau des États exportateurs de la CICOS. Donc, c'est dire que, évidemment, le directeur a parlé de l'accident, ça pouvait ne pas arriver. C'est plutôt parce qu'on a échoué, on n'a pas pu prévenir la pollution de l'eau. Les mécanismes dont dispose...
Mais professeur, comment prévenir un accident?
Thèse, professeur, ne peut pas à ce jour permettre la prévention ou la protection efficace des ressources en eau. C'est ce que j'ai réitéré également dans mon livre qui vient de paraître en 2021 ici, au mois de juillet, portant le titre « Droit contrôlé de l'eau ». Donc, c'est dire que les ressources en eau sont vulnérables. Et elles doivent être protégées. Voilà pourquoi le législateur, bien entendu, de l'environnement de 2011, a énuméré un certain nombre de principes qu'il fallait observer, parmi lesquels il y a le principe de la prévention de la pollution. Et donc, on doit prévenir, parce que, évidemment, vous allez le constater quand on va parler des dommages là, que justement, on ne saura pas réparer tous les dommages qui sont causés par cette pollution. Donc, au niveau du gouvernement, le travail n'a pas été fait parce que les ressources en eau n'ont pas été protégées suffisamment. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Alors, s'agissant du rapport qui parle des dommages, je regrette beaucoup. C'est un rapport que je peux appeler partiel, à mon avis. Mais il semble que c'est intitulé rapport final. Pourquoi rapport partiel? Parce que dans ce rapport, on évalue seulement les dommages à la santé. Les dommages que les individus ont subis, c'est-à-dire 4000 victimes qui ont subi la diarrhée et tout ça, tout ça. Mais ça, du point de vue de l'environnement, du point de vue des ressources en eau, ce n'est qu'une partie des dommages qu'on doit évaluer. Et les premiers dommages à évaluer, ce sont les dommages que les ressources en eau ont subis. C'est-à-dire la perte en biodiversité, l'impossibilité d'utiliser ces ressources en eau, ainsi de suite. Donc, on devait d'abord évaluer les dommages environnementaux, ensuite, les dommages à la santé, bien entendu, on peut inverser l'ordre, il n'y a pas de problème, mais que ça soit évalué. En même temps, on devait évaluer les dommages matériels. Mais les conséquences sur les plans économiques, les pêcheurs qui ne peuvent plus exercer ces activités-là.
Justement, donc, professeur... Justement, professeur Azer, j'ai envie de vous poser la question de savoir quel est l'impact socio-économique et environnemental de cette pollution.
Mais justement, c'est des choses qu'on doit évaluer, madame. Vous avez vu dans les rapports, on s'est appelé seulement à la santé. Et ça, ce n'est pas le juriste que je suis qui doit évaluer. On a plutôt d'autres experts qui sont chargés, qui sont outillés pour évaluer les questions de la biodiversité. Moi, le collègue professeur Chimanga le disait dans une des émissions que nous avons animées ensemble ici. Donc, il y a des experts qui doivent évaluer ces dommages-là. Les dommages à la biodiversité, les composés chimiques qui caractérisent les ressources en eau, ce que nous avons subi effectivement comme perte tout au long de la pollution. Alors, s'agissant des dommages socio-économiques, là également, nous avons des économistes pour nous évaluer tout ça. Mais ce sont des dommages qui doivent être évalués et quantifiés. Les dommages matériels, c'est comme ça que si on fait appel à une expertise multidisciplinaire et que chaque groupe d'experts essaye de prendre un volet, en ce moment-là, on va faire un travail de qualité qui va réunir tous les dommages que la RDC est en train de subir pour, évidemment, demander la réparation.
Mais donc vous avez l'impression...
On fait un travail partiel. En ce moment-là, c'est un travail qui ne vaut pas. Donc, pour moi, les rapports ici, c'est un rapport qui ne présente pas clairement la situation. C'est un rapport partiel qui ne peut pas faire valoir les dommages que la RDC a effectivement subis.
Alors, pour vous, vous avez l'impression que la gestion du gouvernement n'est pas adaptée et n'a pas été assez rapide.
Madame, ce n'est pas l'impression. J'ai dit que le gouvernement a failli parce que il faut prévenir la pollution, c'est-à-dire prendre des mesures qui permettent à ce que la pollution n'arrive pas dans les ressources en eau. C'est une mission première que le gouvernement devait effectivement exécuter. Mais puisque on n'a pas fait ça, finalement, on arrive à la pollution. On appelle ça accident. Ça pouvait être évité, j'ai dit, parce qu'on dit qu'il y a, une digue qui a cédé dans les eaux. Mais est-ce qu'au niveau de la frontière, nous avons la surveillance de la qualité de l'eau que l'Angola nous déverse? Alors, il semble même que ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, simplement parce qu'il y a eu suffisamment de pollution, c'est comme ça que les gens se sont réveillés, mais que régulièrement, toutes nos ressources en eau qui prennent les ressources en Angola sont polluées. Et donc, nous avons de la pollution. Il faut alors que l'on étudie, que l'on vérifie la qualité des eaux qui traversent la frontière. Est-ce que cette eau est propre? Est-ce que cette eau n'est pas polluée?
Donc, je voulais dire que,
du point de vue de la prévention, Madame, le gouvernement a lamentablement échoué.
Alors,
par rapport à la gestion de la situation également, et le gouvernement congolais et le gouvernement angolais, tous ont échoué parce que le gouvernement angolais avait la mission ou l'obligation d'alerter. Donc l'alerte ne devait pas partir de la République démocratique du Congo, mais de l'Angola. Mais là aussi, je crois que les eaux ne sont pas surveillées, parce que si les eaux étaient surveillées, ils auraient dû comprendre que les ressources en eau sont polluées et informer rapidement, à temps utile, la République démocratique du Congo pour que certaines mesures soient prises.
Professeur,
on a failli de ce point de vue-là. C'est comme ça que j'ai dit que, évidemment, c'est un travail qu'on est en train de faire là comme pour récupérer, mais en réalité, c'est irrécupérable.
Alors, professeur, jusqu'où, selon vous, cette pollution est-elle susceptible de s'étendre?
Mais c'est tout le long de la rivière. La rivière Kasai, d'abord Chikapa, Kasai, jusqu'au fleuve là-bas. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut faire appel aux hydrologues pour que puissent essayer, comment dirais-je, évaluer, étudier, prélever les échantillons à tous les niveaux, jusqu'au niveau de l'embouchure, pour quantifier, voir est-ce que le degré de la pollution à tel niveau, et qu'est-ce que nous avons subi comme perte de la biodiversité, ainsi de suite.
Donc,
on ne peut pas s'arrêter à Chikapa et prélever des échantillons. Non, ça doit être prélevé sur tout le parcours de la pollution.
Merci, professeur.
C'est à ce moment-là qu'on aura une idée nette.
Merci, professeur Azer. Nous avons voulu vous dire, les auditeurs sont très nombreux à nous appeler pour donner leur point de vue sur ces sujets. On va prendre pour vous, Louis Lungu, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Je m'appelle Dieudonné Bangefis. Je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Sachant bien que la régie des eaux est quasi inexistante dans cette province, en tant que natif du Kasai à Ilebo, où se trouve le deuxième port du pays après celui de Matadi, cette situation jamais connue dans les temps m'a laissé perplexe et condamnant avec la dernière énergie la légèreté avec laquelle le gouvernement central a traité cette catastrophe si nuisible au vécu des populations riveraines. À Ilebo, ma cité natale, à titre d'exemple, sans citer bien entendu d'autres villages environnants, la rivière Kasai était d'un apport considérable dans la mesure où elle nous servait aux différents besoins, notamment boire, faire la cuisine, prendre bain, faire la pêche, et j'en passe le meilleur. Cependant, c'est déplorable que ces eaux soient polluées en amont et les gouvernements n'auront attendu que les pires n'arrivent pour trouver des solutions adéquates. Par conséquent, il est impérieux que nos familles victimes de cette catastrophe bénéficient dommages et intérêts pour tous les préjudices subis, et cela pourra apprendre aux services habilités de toujours prévenir au lieu d'attendre les dégâts pour enfin en venir à la rescousse. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
Louis Longo, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de Dieudonné qui nous a appelé depuis Lubumbashi?
Merci beaucoup, madame. J'ai suivi madame Julie. Je viens de suivre le prof Hassan. Je pense que le prof Hassan a dit en une seule phrase que le gouvernement a lamentablement échoué. Je pense, je ne défends pas le gouvernement, mais je dis des faits qu'il connaît. D'abord, je vous rappelle que les deux grands messieurs qui interviennent chaque jour sur vos réseaux, pour ne pas les citer, les profs Raphaël et Arsène, sont passés à la direction des ressources en eau. Je suis fier d'avoir reçu dans ma direction des éminents Congolais qui aujourd'hui sont à la hauteur. Je profite pour les féliciter. Alors, dire que le gouvernement a lamentablement échoué, je ne pense pas, parce qu'à ce moment-là, vous pensez que un gouvernement en RDC, c'est le gouvernement central. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un problème de degré d'intervention. Dès que la situation a dégénéré le premier jour, c'est pas Kinshasa qui a vu ça, c'est la province qui a vu. Et la province a fait de la prévention. Et la prévention, c'est un aspect très très important pour éviter les catastrophes. C'est ce qui a été fait, ne plus que ça. Aujourd'hui, si les intervenants critiquent le gouvernement, je suis d'accord, ils sont libres de le dire. Mais je vais leur rappeler tout simplement que la catastrophe telle qu'elle est arrivée aujourd'hui fait appel à plusieurs compétences, comme le prof vient de le reconnaître. Ça fait appel à plusieurs compétences. Faire appel à plusieurs compétences exige suffisamment de moyens. Et ils sont chercheurs, je suis d'accord avec eux. Mais pourquoi ils font leurs recherches seulement à Kinshasa? Ils n'ont pas un laboratoire bien équipé sur Tshikapa, sur Kwilu, sur Ntimi, sur Maïndombe, sur Ntsele. Pourquoi ils sont à Kinshasa, ils sont dans les villes? Donc c'est un problème qu'il faut voir dans la globalité. Et dans la globalité, ce n'est pas dire c'est tel qui a échoué, tel a reçu. Non, le gouvernement a fait ce qu'il a fait. L'insuffisance d'aujourd'hui qui est constatée par les chercheurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si eux ont été formés, c'est justement dans cette insuffisance-là qu'ils ont été formés. Aujourd'hui, ils sont professeurs pour contribuer, pour aider le gouvernement qui les a formés à aller de l'avant. Et dans cette aide que le gouvernement attendait, la première chose serait de reconnaître que c'est une catastrophe, de reconnaître que c'est un accident. Je rappelle aux profs que la pollution zéro n'existe pas, même aux auditeurs. La pollution zéro n'existe pas. Aujourd'hui, vous criez parce qu'il y a la pollution sur les Kassai. Madame Julie a dit que la population rentre, elle est en train de puiser l'eau sur les Kassai. Mais j'attendais des intervenants dire, voilà, la pollution est partie, il faut qu'on fasse vite les analyses à tel point pour que Tshikapa puisse boire de l'eau même de la rivière en attendant. Les processus de forage, les processus d'aménagement des sources, ça ne se fait pas le soir au lendemain, madame. Ça ne se fait pas le soir au lendemain.
Merci.
Encore moins, il faut vérifier qu'à Tshikapa, il y a des barres de fer, il y a des gisements, il y a les caillasses pour faire des travaux en urgence. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est pour leur dire qu'on doit s'asseoir, réfléchir pour pallier. Le gouvernement résout les problèmes de manière définitive. Il ne va pas résoudre les problèmes en laissant les gens aller mourir.
Merci.
Aller mourir, aller consommer de l'eau sale.
Merci, Louis.
Ça, on ne peut pas le faire.
Merci,
alors,
Louis.
Alors,
laissez
les profs à détailler.
Je vais vous donner.
Aujourd'hui,
Louis Longo, s'il vous plaît.
Excusez-moi, madame, je termine. La source de pollution étant connue, on ne va pas aller en Angola, comme madame Alice l'a dit, comme le prof l'a dit, sans cahier de charges. On doit prendre ces hydrologues, on doit prendre ces climatologues, on doit les prendre ces mammologues, on doit les prendre tel, qui doivent réunir les informations nécessaires.
Julie Otano, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Tshikapa.
Okunjilang et François, depuis Kassai, Tshikapa, à Mweka. Nous sommes les victimes et témoins de cette triste nouvelle au Kassai, où notre territoire de Mweka et celui du Dégo sont affectés par cette pollution. Les riverains du Kassai, notamment de Mayimi, au site de Banga, Benamakima, à Mweka, Ndungu, à Nuevo, et le port Franky du Lebo ont été frappés par la diarrhée, la crise alimentaire, la rareté des poissons, etc. La faute est attribuée au gouvernement central Sama Lukonde de Wario, qui n'a pas pu prévenir le contrôle des eaux à travers ses services spécialisés comme la fusion des mines, l'exploitation de la base, mais les précautions devraient être mises en place. La récente descente de la délégation du gouvernement central avec à sa tête la VPM Environnement, Eve Bazaï, va être une source de soulagement, car la jeunesse au niveau de Tikapa lui a remis les cahiers des charges pour la construction des forages. Je salue également l'arrivée à Tikapa hier, mardi 31 août 2021, de son excellence, monsieur le ministre national de la pêche et l'élevage André Boukele, pour l'évaluation également.
Julie Ochano, brève réaction.
Brève réaction, madame. De la même manière qu'il décaisse l'argent pour acheter des jeeps aux députés, de la même manière qu'il fait la mobilisation pour l'est du pays, de la même manière qu'il donne des salaires trop élevés à des individus, et de la même manière le gouvernement central doit décaisser l'argent pour offrir à la population du Kasaï l'eau potable. Ça ne leur coûte rien au vu des dépenses exorbitantes qu'ils sont en train de faire et qui ne va pas directement à la population. Donc nous parlons au nom de la population du Kasaï. Nous n'avons pas à ce jour vu une aide réelle passable de la part du gouvernement national en termes d'aménagement, ne plus que des sources qui sont au niveau des villages. Toutes les populations riveraines ont le même degré d'exposition. Rien n'a été dans ce sens-là. Eh bien, nous le disons, je me rallie par rapport à ce intervenant pour dire que le gouvernement national doit prendre les choses en main. Nous avons déjà procédé à la plainte contre cette société minière. Eh bien, le gouvernement d'Angola, de la même manière qu'ils sont en train de faire des refoulements musclés de nos compatriotes congolais qui sont en Angola, de la même manière, ils doivent savoir que nous ne sommes pas des animaux où leurs sociétés minières doivent injecter des substances polluantes pour pouvoir tuer la population du Kasaï.
Professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Tout en saluant la promptitude du gouvernement central et qui aussi a pris cette nouvelle, a diligenté une mission gouvernementale sur les lieux du drame. Néanmoins, j'en appelle le gouvernement à veiller d'abord au sort des paisibles citoyens victimes de cette calamité avant d'entrer en contact avec le présumé spoliateur. Car nous savons tous que les coins frappés par cette pollution fait actuellement face à une certaine difficulté, notamment les maladies hydriques, la rareté des poissons et bien d'autres. Bref, il faut une assistance rapide à ces victimes. C'est après alors qu'il sera question d'échanger avec les pays incriminés à la base de la pollution en présence des experts internationaux pour essayer d'établir les vraies responsabilités en vue d'une réparation immédiate. Car jusqu'ici, ces pays ont une certaine présomption d'innocence.
Gaston Bilambo nous a plutôt appelé Disangui dans la province de la Tchopo. Professeur, brièvement, comment vous réagissez au propos de Gaston?
Merci beaucoup. Monsieur Gaston dit que le gouvernement est intervenu avec promptitude. Évidemment, mais pour faire quoi? C'est pour les mesures palliatives, mais qui sont déplorées sur le terrain, qu'on ne voit pas. Alors, lorsqu'on intervient pour les mesures palliatives, c'est qu'on a failli à l'obligation vitale. Je voudrais dire que, madame, en ce qui concerne le droit de l'environnement en général et la protection des ressources en eau en particulier, l'obligation principale, c'est celle de veiller à ce que la pollution n'atteigne pas les ressources en eau. C'est ce que la loi de 2011 donne comme principe, c'est ce que la loi de 2015 relative aux ressources en eau donne comme principe. Donc on doit veiller pour que la pollution n'atteigne pas des milieux naturels. Et c'est ça l'essence de la prévention. Même quand le directeur Malouchi dit que le gouvernement a pris des mesures préventives, non, ça ce ne sont pas des mesures préventives, ce sont des mesures palliatives. Les mesures préventives se prennent en amont, c'est-à-dire pour éviter que le dommage ou la pollution atteigne les ressources en eau. C'est comme ça que justement, je réitère en disant que le gouvernement a failli par rapport à ces mesures préventives.
Merci.
Par rapport aux mesures palliatives, donc, c'est ce que vous, madame qui est sur le terrain, vous dit, qu'on ne voit pas le forage, on ne voit pas la population continue à accéder à ces ressources en eau qui sont polluées. Alors, s'agissant des moyens, justement, les moyens doivent être réunis avant. On ne réunit pas les moyens après. Gérer, c'est prévoir.
On ne doit pas un matin se réveiller et dire que bon, c'est un accident qui est arrivé et puis on commence à chercher les moyens pour affronter cet accident. Non.
Merci.
Non, madame, la gestion voudrait qu'on puisse prévoir.
Merci.
Et si on avait prévu, et pourquoi il existe? Évidemment, le ministère des Affaires humanitaires intervient lorsque la situation arrive, ça c'est du côté humanitaire, mais on doit prévenir pour qu'on n'en arrive pas là.
Merci, ah, professeur.
Merci, après, on peut prendre des mesures palliatives.
Donc, merci, professeur Azer Nzovu. On va vous redonner la parole tout à l'heure pour conclure. Nous sommes à la fin de notre émission. Louis Lungu Malouchi, directeur chef des services des ressources en eau au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Plusieurs observateurs estiment que cette énième pollution de nos eaux, après celle du Katanga avec les miniers et celle du fleuve Congo avec les bacicoles à Kinshasa, relance le débat sur la responsabilité de l'État dans la protection de nos rivières, lacs et fleuves contre ces genres de désastres environnementaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Exactement, madame. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un État, nous avons des habitants, nous avons un territoire et nous devons nous assumer. La pollution zéro n'existe pas. Tous ceux qui interviennent actuellement, même vous-même, parfois vous jetez un papier, parfois vous jetez un objet à un endroit non approprié. Donc la pollution zéro n'existe pas. Tout ce que nous faisons, c'est réaliser, faire de l'accompagnement au regard des textes, faire de la répression si nécessaire, et faire payer des redevances si nécessaire. Nous devons nous assumer comme un État, un pays sans pollution n'existe pas. En une phrase, je dis, c'est un problème de moyens. Ce qui est arrivé doit être pour nous Congolais, non pas une blague, non pas une distraction, mais un message. Nous sommes le pays qui est au fond d'un bassin, qui s'appelle le bassin du Congo, dans la cuvette. Ce qui est arrivé aujourd'hui, d'un coin du bassin, peut arriver de tous les bords du bassin. Je pense que les décideurs, les stratèges ont compris de quoi je dis. Nous devons vite réfléchir, trouver des moyens pour appuyer le secteur des ressources en eau. Il n'y a pas un secteur aussi vital au monde que le secteur de l'eau, des ressources en eau.
Merci Louis Lungu. Julie Ochano, votre conclusion.
Ma conclusion est que le gouvernement, si le gouvernement s'en limite, il doit faire appel aux autres qui présentent le rapport et d'autres viendront à sa rescousse. Et évitons trop de diplomatie parce que la population n'attend pas vos rapports diplomatiques. La population a besoin de boire l'eau potable. La population a besoin de manger. La population a besoin d'avoir accès à des légumes non pollués. La population a besoin de faire un petit commerce avec un peu de fonds. Donc arrêtons un peu avec trop de discours politiques, trop de discours scientifiques. Jusque là, nous ne voyons même pas des retombées.
Merci.
Donc ce que nous demandons à ce que le gouvernement national puisse déclarer l'état d'urgence, que justice soit faite. Et nous pensons que Afegico qui nous entend va prendre en relais la recommandation du réseau des femmes pour le développement du Kasaï, à pouvoir porter plein de points de cette société minière. Afin que
merci Julie Ochano. Professeur Azer, 30 secondes, votre conclusion.
Merci beaucoup madame. Je voudrais dire que cette question, comme je vous ai dit depuis 2018, j'ai écrit avec moi 5 livres et le dernier c'est le droit congolais de l'eau. C'est-à-dire que tout ce que le directeur dit à propos des failles, à propos des de moyens, de la responsabilité de l'État. Je les dénonce, mais on fait attention à tout ça. Alors, dans le dernier ouvrage, par exemple, je parle des atteintes à l'eau. Si on doit appliquer correctement nos lois, telles que je les dénonce, je crois qu'on peut, c'est vrai, la pollution zéro n'existe pas, mais on peut préserver les ressources à nous. Donc, le gouvernement et tous les décideurs doivent prendre cette question au sérieux et réunir l'expertise appropriée pour que cette question des ressources à nous soit résolue.
Merci, professeur Azer Nzovu Lobodji. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Doula Madimba, Michel Outeté sous la supervision de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.